Bonjour, merci beaucoup. Ce pays est magnifique. C'est vrai que je connais la version de l'Ontario, mais je vais revenir. Je suis arrivé plus tôt. J'ai pu m'éloigner de mon travail. J'ai eu l'occasion de voir faire un peu de tourisme ici, au moins en Ontario. Les présentations sont excellentes. Moi, j'ai appris quelque chose dans cette présentation. Je m'excuse, mais je ne me souviens pas des noms des autres conférenciers. Il est 4 ou 5 heures du matin chez nous. Alors, si moi je suis encore éveillé, il faut que vous restiez éveillé, même si on a déjà mangé. Alors, j'ai bien aimé les exemples sur les processus, les compétences, la formation. C'est très bien qu'un producteur fasse des garanties par rapport à la vérification et la conformité, mais quand on travaille de nuit et les comparaison entre les nouveaux et les anciens travailleurs. Et je travaille dans mon domaine depuis longtemps. Alors, je suis là depuis longtemps. J'ai l'impression de tout savoir. Alors, c'était excellent de venir ici, me faire brasser la cage un peu. Ça me permettra de retourner chez moi avec des nouvelles idées. J'ai bien aimé ce concept de « faites-moi confiance, ça ne marche plus ». C'est vraiment, c'est vrai chez moi. C'est... J'espère que je pourrai vous expliquer pourquoi. J'entends toujours « faites confiance, mais vérifiez ». Sans documentation, il s'agit de rumeurs. Ils sont mesurés. Je vais faire un petit changement pour qu'on puisse me comprendre chez nous. Il s'agit simplement cocher une case. Les codes et les vérifications... Ce sont des moyens d'arriver à une fin, mais il ne s'agit pas d'une fin en soi. C'est quelquefois un peu difficile que les producteurs comprennent tout ça. Ils ont dit qu'ils ont amélioré les normes. Ça veut dire qu'il va falloir en donner plus la prochaine fois. C'est vrai, en réalité. Mais le marché et le temps, les deux avancent. Et il faut aller dans le même sens que les... consommateurs et le marché, il faut penser à votre avenir et il faut le contrôler. Jeff de SPCA, nous avons aussi un SPCA chez nous, mais Jeff avait dit que vos codes sont votre cadre et c'est un point de départ très important. Ah, peser sur la touche verte. Bon, je vais vous donner une idée. Faire une petite comparaison entre le Canada et l'Australie. Ensuite, je vais parler de notre code modèle et nos règlements sur le bien-être des animaux. Je vais parler surtout du secteur porcin, aussi des exigences et la complexité du marché. Pourquoi nous sommes passés à ces documents sur notre avenir? Ça veut dire qu'on puisse continuer à avoir une permis social d'exploitation. Et pourquoi le port australien se démarque et pourquoi est-ce que le port est tellement important pour la stratégie et pour le code? Le Canada a une surface plus importante que celle de l'Australie, mais l'Australie, j'ai mis le même temps de voler de Vancouver à Ottawa que je mettrai dans un vol de Sydney à Perth. Vous êtes 21 millions, vous êtes 34 millions d'habitants. La consommation interne, intérieure est semblable. Nous avons beaucoup d'importations comme vous. Votre disparition du port dans le marché est très semblable à nos problèmes, mais vos exportations sont magnifiques. Vous avez bâti votre industrie à partir des exportations. Notre industrie est très réduite dans nos pays. Ça veut dire qu'il faut être créateur et profiter des industries un peu plus grandes. Quelquefois, nous sommes les meneurs. Ils doivent nous suivre et on leur donne l'impression que c'est leur idée. Nous abattons 4,6 millions, c'est à peu près 23 millions pour vous. Ça, c'est un aperçu du système de production. Je vais c'est vraiment axé sur les porcs. Maintenant, je vais prendre du bien-être animal et des codes de réglementation. Nous avons un processus semblable par rapport au code modèle, mais maintenant, ça s'appelle le code et les lignes directrices pour les prix. C'est la même chose en réalité. Selon notre constitution, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable du processus de code modèle, au moins pour l'amorcer. Et c'est aussi responsable des exportations de bétail sur pied. Chaque État et territoire a ses propres lois sur le bien-être animal et on cite directement les codes de façon différente selon les États. Ça peut être comme le code dans son ensemble. C'est ma préférence et je vais expliquer pourquoi. Et il y a normalement une protection. C'est quand la protection existe. Déjà, les États, normalement, ne veulent pas modifier leurs lois ni introduire d'autres nouvelles lois. Les normes sont dans les codes, ce sont les obligations. C'est réglementé de façon spécifique. C'est problématique parce que les rédacteurs, ils participent, ils n'aiment pas votre terminologie, ils changent les fignoles et ils trouvent une norme tout à fait différente et ce n'est pas quelque chose de pratique qu'on pourrait utiliser à la ferme. Le code modèle pour les porcins a été révisé la dernière fois en 2007. Ces révisions devraient être entreprises tous les 5 ans, mais le gouvernement de l'Australie avec les industries du bétail va prioriser les codes pour déterminer lesquels devraient être les premiers codes. Alors, ça a commencé en 2002-2003 pour le code de porcin. On a demandé un retard parce qu'il y avait une sécheresse immense et on ne veut pas consulter les producteurs quand ils ont des grosses préoccupations d'un autre ordre. Alors, le processus de consultation a vraiment commencé en 2004. Un comité de rédaction a été créé. Nous en avons parlé avec le RSPCA, une autre organisation de droits des animaux. Animal Australia, je veux parler d'une différence. Chez nous, on parlait des Animal Welfare Bodies, SPCA, et notre RSPCA, mais il y a des groupes comme Animal Australia, c'est des groupes qui défendent les droits des animaux. En réalité, ce sont des végétariens. Alors, leurs stratégies commerciales sont très différentes et c'est très important de comprendre ceci pour, lors des débats, de l'engagement et des négociations, on comprend leur point de vue parce qu'on peut quand même collaborer de temps à autre avec ces instances et plus tard, je vais vous expliquer comment. Alors, le processus du code était très lent et pour une industrie intensive, c'est toujours comme ça. Le Conseil ministériel des industries ministères ont approuvé en 2007, il y avait 25 changements clés. Le plus important traite de l'espace par animal, l'accroissement. Alors, il y avait une limite de 6 semaines à l'utilisation des stalles à tuyaux qui entre en vigueur en 2017 et surtout formation et évaluation des compétences et vérification des proposés devait être introduite pour 2011. Dans les négociations, les groupes de bien-être nous demandent comment on peut savoir que vous faites en réalité ça? Vous devez démontrer la conformité. Mais ils se concentrent sur la compétence, surtout. Si on n'a pas des personnes qui gèrent bien les conditions, même si le porc se trouve dans un palais, on ne va pas bien gérer la situation. Il y a eu des ramifications dans d'autres industries de bétail. C'est pourquoi c'est toujours important de regarder ce qui se passe dans d'autres industries. parce que ce qu'elles font peut avoir une incidence sur vos pratiques. Le conseil ministériel avait convenu qu'il fallait finir tout ça pour 2009. C'était vraiment un processus très, très long. Quand ce code a été amorcé, tout le monde finançait, les États se finançaient, le gouvernement du Commonwealth se finançait et l'instance de l'industrie se finançait. Mais entre l'amorcement du code et sa mise en œuvre, on a dépensé près de 400 000 $ pour défendre notre... et ça comprend la recherche et le développement. Mais le code est considéré comme une réussite de l'industrie. C'était avant-gardiste et proactif à ce moment-là, mais en 2011, je peux vous dire que les choses ont changé beaucoup depuis 18 mois. Mais à ce moment-là, c'était très avant-gardiste et proactif. On évitait la contraction du marché à l'instauration des changements, les incidences des exigences d'espace, la réduction accrue de l'utilisation des salatuis. Il y avait aussi la limite de 4 semaines exigée par l'Union européenne. On a fait pression dans l'industrie pour que les normes soient réglementées. Dans chaque État, on voulait être protégé. J'ai entendu dire de la part de Catherine que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Peut-être que ça marche pour le Canada. Moi, je peux pas vous le dire, mais chez nous, nous voulions avoir cette protection, on voulait pouvoir se protéger parce que nous voulons pouvoir démontrer devant les cours que nous faisions ce qui était correct. Nous avons établi un cadre pour de nouvelles normes et lignes directrices qui remplaceront les codes modèles. Depuis ce moment-là, 72 % de la production en Australie utilise les stalles pendant 4 semaines au moins, et la moitié de ces 72 ne les utilise que pendant 2 semaines. Alors, nous faisons mieux que ce qui exige le code. Le résultat est excellent, mais ça ne suffit pas encore, et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Voici le processus pour la réglementation de ce code. Vous voyez quels États ont commencé à mettre en place ces règlements. Tasmanie est très proactive. Elle s'est trompée un peu, mais on ne va pas les critiquer. Ils vont faire des modifications et ils vont nous consulter. En Australie, ils avaient décidé qu'il fallait rendre ça un peu plus difficile. Le Queensland a terminé à la fin de l'année dernière. En Tasmanie, merveilleux, mais le parti vert est dominant en Tasmanie. Alors, s'il s'agit de quelque chose de social, c'est une nouvelle importante. Ils ont décidé qu'ils allaient aller chercher des normes très élevées. Et leur ministre avait convenu du code. Alors, il n'y a pas d'assurance dans ce processus. Mais quand on fait face au gouvernement, c'est comme si on faisait face à un marché.
On essaie de porter ça au... L'attention des secteurs du bétail, notamment de viande rouge, parce que c'est très important. Si on peut obtenir un appui, ce serait fantastique. Je dois vous dire que d'autres industries traînent beaucoup sur le bien-être des animaux. Ils sont dans une position très confortable, tellement confortable, mais pas tant après la question des exportations. Il y a un problème quand les États commencent à toucher au code. On a différents résultats. Ça, c'est les États à l'intérieur de l'Australie. Et à ce moment-là, ça n'aide pas la concurrence des affaires. Alors, voici une ligne directrice très normale.
About the various committees. All you really need to know.
Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que nous avons un groupe de référence spécial et un groupe de rédaction avec des membres précis, ceux qui comprennent les gens qui s'occupent du bien-être des animaux, les sociétés de protection, le financement depuis le code de porcin, ça va être un tiers de chaque parti, le gouvernement fédéral un tiers, le gouvernement des États un tiers et l'industrie paye un tiers. Bon, si vous êtes une petite industrie, le coût est moindre et il y a beaucoup plus de considérations sur la façon de trouver du financement. Et ça serait peut-être des accommodements pour être disponibles. Sans code, avant le code, il y a la consultation publique. Il y a aussi un bureau de l'examen des règlements pour être sûr que ces règlements-là ne poseront pas un fardeau trop lourd sur les contribuables. Il y a un avantage pour le public. Et ensuite, il y a une consultation du grand public. Ensuite, après toutes ces étapes, ça revient au groupe de référence, c'est signé et est présenté aux divers comités du gouvernement. Et finalement, on arrive au Conseil des ministres. Et si jamais il y a des changements, il faut que ça revienne, en théorie, en tout cas, au groupe de référence pour leur approbation, pour qu'il y ait une certaine assurance que tout le monde est d'accord. Et comme je l'ai dit, c'est là que les États le mettent en œuvre au niveau de la ferme. Chaque État a réservé ses droits de mettre en œuvre une norme plus élevée. En principe, ils vont dire que les résultats devraient être les mêmes ou meilleurs, mais ils ne prennent pas d'engagement à cet effet. Et ça, c'est devenu un problème assez important pour nous, problème qui est toujours à l'avant-plan de nos négociations dans les industries du bétail et autres. Mais je pense qu'on fait des progrès, ce qui est bonne chose. Ça prend beaucoup de patience et de tolérance. Aussi, dans le code porcin, il y a eu place pour un rôle croissant de la qualité, l'assurance de la qualité dans l'industrie, pour être sûr que l'on démontre que l'on fait ce qu'on dit qu'on va faire et une certaine vérification. Nous avons essayé de monter un programme d'assurance de la qualité et de le faire reconnaître dans le code porcin en 2007, mais on a dit non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, ça nous aurait été bien utile. Et ça touche aussi aux questions qui ont été mentionnées ici pour l'observation du règlement ou du code. Mais on a réussi quand même. On a sorti le code quand même parce qu'il est important d'avoir un programme d'assurance de la qualité pour montrer qu'on fait ce qu'on dit. Alors, parlons du programme australien d'assurance de la qualité dans l'industrie porcine. Alors, il y a une vérification des fermes par année, une partie indépendante, un tiers. Le programme d'assurance de la qualité canadien est très semblable à ce que nous étions il y a plusieurs années. Et ça a commenté comme un programme de sécurité alimentaire basé sur HACCP, ça a été modifié. C'est très important d'apprendre à marcher avant de courir. Et c'est vrai dans ce domaine-là aussi. Je vous montre aussi quelques résultats où nous avons abouti finalement. Et c'est en évolution constante. Il faut d'abord instaurer une culture en matière d'assurance de la qualité, et ensuite, on peut mettre en œuvre un processus de vérification ou d'audit, et ça peut être une vérification faite par un tiers. Je dis tiers parce qu'il faut faire preuve d'observation à certains de nos clients. Nous invitons donc un tiers pour faire une vérification du programme lui-même aussi, que nous gérons, et nous faire un rapport, nous donner une carte, un tableau de bord. Ça couvre la salubrité des aliments, biosécurité, la traçabilité et le bien-être des animaux. C'est volontaire. Personne ne vous obligera à le faire. Mais si les clients le veulent, les producteurs vont finir par choisir d'approvisionner ce marché ou non. Alors, ça prend un agrément de la PIC. La plupart des gros transformateurs et détaillants, c'est un bon incitatif pour les producteurs. Et trois de nos grandes sociétés de transformation ont annoncé dans ces 12 derniers mois qu'ils ne paieront moins pour les cochons s'il n'y a pas de programme d'assurance de la qualité en place. On ne reçoit pas une prime pour l'avoir si on reçoit un rabais si on ne l'a pas. Je vais vous parler sur la loi sur la gestion du bétail de Victoria, une de nos provinces. Et nous espérons que d'autres États vont s'y intéresser. L'Australie-Méridionale s'y intéresse. Mais pourquoi est-ce novateur? C'est parce que ça reconnaît les programmes d'observation de l'industrie. Et ce que ça dit, c'est que, bon, c'est une nouvelle loi qui entre en vigueur bientôt. Tous les producteurs doivent faire une évaluation de la systématique par rapport à bien-être, traçabilité, salubrité, et dans les 6 mois de l'entrée en vigueur des normes. Toutefois, on est exempté si on est déjà dans un programme d'observation déjà approuvé. Et ça, c'est APIC ou un autre semblable. Donc, le gouvernement victorien donc approuve ce programme-là. L'objectif ici, c'est d'utiliser les programmes de QA pour démontrer l'observation des codes. Ça assure les gens qui assurent la réglementation. Il y a des inspections aléatoires. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'inspections parce qu'ils sont assurés que les gens font ce qu'ils font. Ils disent ce qu'ils font et ça assure le gouvernement du Victoria par des rapports, des dossiers, etc., qui sont tenus. Toutefois, comme je l'ai mentionné plus tôt, le marché a évolué. Nous avons eu un code très progressif dont on était très fiers et qu'on aime encore mentionner, mais malheureusement, on est allé au-delà de l'usage limité à 6 semaines. Et pourquoi feriez-vous quelque chose d'aussi fou que cela? De poursuivre l'abandon progressif et volontaire des stalles à truies. Alors, limiter leur utilisation, non, c'est beaucoup plus loin, on n'en fait plus. Et je dois vous expliquer pourquoi. Si vous regardez un pays, ce qu'il faut, c'est comprendre la dynamique du marché et ses complexités qui sont à l'œuvre. Car j'espère qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi la décision prise est très sensée, en fin de compte. On a débuté à partir de l'hypothèse de base que l'utilisation des stalles de gestation seront inacceptables socialement et qu'il faudra donc les abandonner. Cela serait à la fois par la réglementation et les forces du marché imposées par les détaillants. Alors, quels sont les points de pression? Il y a la montée de la pression politique et sociale à faire du changement, dont le bien-être de la société d'abondance, une opposition publique croissance au système de confinement dans la production intensive des animaux. Alors, cette préoccupation communautaire au sujet de l'agriculture intensive, beaucoup plus au sujet de que pour l'agriculture extensive. Il y a un creusement de fossé entre la ville et la campagne. On a les gens des droits des animaux qui deviennent de plus en plus visibles et utilisent les médias sociaux. Il y a aussi la politique. On ne peut pas les divorcer. Hein? Bon, il y a un point de vue populiste. Et chez nous, c'est qui tient la balance du pouvoir. Cette dynamique est en évolution aussi. On voit aussi des influences mondiales qui se retrouvent aussi chez nous. Vous avez entendu parler de la proposition due en Californie. Et ça se propage aux États-Unis. Une société a annoncé ses intentions. L'industrie du sport de la Nouvelle-Zélande, qui est à côté de chez nous, a annoncé qu'ils allaient bannir des stalles de truies. Et il y a des positions qui, ailleurs, on a beaucoup de pression de la part des détaillants et je vais vous expliquer l'importance de cela. Ils veulent des produits avec une valeur élevée à un prix plus bas. Ils veulent aussi des produits appuyés par des normes robustes et appuyés sur le bien-être. Et ils veulent des preuves que le produit répond à ces exigences. En Australie, nous voyons l'émergence du droit animal par la croissance d'un seul groupe qui s'appelle Sans Voix, qui croît rapidement et qui est très bien considéré. Ce n'est pas aussi reconnu que la Société protectrice des animaux, mais ils se déplacent dans les milieux financiers. Ils ont l'oreille. Un de nos grands juges à la retraite. Ils avaient des gens comme Jane Goodall comme patronne. Donc, et autres commanditaires, ils ont une approche très rusée et stratégique. Ils sont bien admirés dans leur façon de procéder et cela nous préoccupe beaucoup. Je vais vous parler un peu de ces groupes de bien-être animaux. Quand je suis venu à cela, j'ai pensé que les pressions des États-Unis se vivaient également ici au Canada, mais ça ne semble pas être le cas. Vous semblez avoir une période tranquille ou conservatrice au sujet des groupes de bien-être animaux, de leurs droits. Ça pourrait changer. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que vous devez ne pas être complaisant et penser à ce qui pourrait se passer à l'avenir. Je vais vous montrer où nous étions il y a 5 ans, où j'aurais eu à peu près les mêmes idées au sujet du bien-être animal et des groupes de droits des animaux. Je me dirais, oh, c'est trop pratique, je ne veux pas m'impliquer là-dedans. La protection des animaux fait un bon travail, mais je peux vous dire que sur l'exportation des animaux vivants, que la Société protectrice des animaux a avancé tellement vite qu'ils ont choqué l'industrie du bétail. Comment est-ce qu'ils peuvent collaborer avec Animaux Australie, un de ces groupes radicaux? Bon, et les gens n'ont pas lu le plan d'affaires de la Société de protectrice. S'ils les connaissaient si bien, ils auraient su qu'ils ont toujours été opposés aux exportations d'animaux vivants et ils voulaient faire du changement. Ils étaient tannés d'être les gens dans le milieu, toujours gentils, gentils avec tout le monde. Ils voulaient apporter des changements réels et se faire voir comme le faisant. Alors, on peut collaborer avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, mais c'est quand on cherche le même résultat. Hein? On ne s'entendra pas sur certaines choses, mais on s'entendra sur d'autres choses. Et les deux ont une base de financement assez large. Hein? C'est simplement une stratégie d'affaires. Alors, les campagnes sont devenues plus sophistiquées et très ciblées et ont utilisé les médias sociaux de façon impressionnante. Bon, je parlais avec la directrice générale qui parlait. De 1 000 lettres au ministre. C'est rien, ça. Quand on utilise les médias sociaux, ça prend un petit clic et on a des lettres qui s'en vont partout, aux détaillants, petits et grands, aux membres du Parlement, aux ministres d'Agriculture. Avec un petit clic du bouton, à l'utiliser le blogage, le Twitter, tout cela très impressionnant par ces groupes-là. Et j'aimerais bien avoir l'argent pour faire ça, moi, là, mais je ne l'ai pas. Ils ont aussi le luxe de s'investir. Ils n'ont besoin que de cibler une seule question à la fois, alors que les gens qui répondent à leurs critiques doivent répondre à plusieurs questions et dépenser leur argent sagement. Ce que j'ai vu ces dernières années, c'est des multimillionnaires qui s'intéressent au programme de soins des animaux et qui les financent. Ces gens-là n'ont pas peur de prendre des risques, alors que les agriculteurs sont très conservateurs, bien sûr, et ils agissent de façon très stratégique, ils sont patients et ils sont engagés à leur cause. Donc, ne faut pas sous-estimer ces radicaux des droits des animaux. Voici. Alors, ça, c'était une petite annonce. Et ils ne font que s'améliorer. Vous pouvez aller regarder leur site Internet, hein? Vous allez voir, c'est très bien fait. Donc, comme je l'ai dit, ils collaborent entre eux pour leur campagne, pour les droits des animaux et les médias sociaux. Et c'est très impressionnant. Ils ont des messages très efficaces. Et comme je l'ai dit, les capacités des producteurs et autres de répondre sont très limitées. Et il y a une différence croissante entre les gens des villes et des campagnes, ce qui alimente encore plus la situation, ou envenime la situation. Bon, je vous ai parlé des bailleurs de fonds sophistiqués. Il y a aussi la question des exportations des animaux vivants. C'est l'industrie du bétail n'a pas seulement changé le paradigme, ils ont impliqué le ministre. Et ça, c'est une grande victoire pour les gens des droits des animaux. Ils ont obtenu l'attention du ministre qui a fermé ce marché basé sur le fait qu'il y a eu une réponse publique tellement forte de gens qui n'aimaient pas ce qui se passait en Indonésie. Enfin, qui trouvaient ça que c'était une horreur. Ça signifie qu'anti-campagne monte campagne contre eux. La prochaine fois, ils savent que s'ils peuvent faire passer le message en le rafistolant comme il faut, ils pourront avoir une campagne soutenue qui amènera le changement au niveau du ministre et du gouvernement. Alors, le fossé entre la ville et la campagne en Australie, les choses changent. Mais ce qui est important là, c'est que ça provoque des changements dans la perception des générations et leurs attitudes par rapport au bien des animaux, la production alimentaire, du sujet difficile à discuter aussi. On a eu aussi une autre histoire sur 60 minutes et on n'a pas été très bien vu là-dedans. C'est difficile de convaincre les gens qu'on fait les bonnes choses avec l'histoire de sensations comme ça. Alors, même si on est proactif, il faut se dire pourquoi ne pas abandonner complètement. Non, ce n'est pas comme ça. C'est des petits pas l'un après l'autre. Eux sont patients et engagés. Il faut aussi être patient, engagé et faire des interventions stratégiques. Bon, le conseil d'administration discutait l'abandon des stalles pour instruire en gestation pendant quelques temps, mais le débat à 60 minutes a accéléré les choses. Le conseil d'administration est allé voir, le conseil est allé voir de la recherche, les consommateurs, les détaillants et les producteurs. Toute campagne a une incidence sur la vente des porcs, mais seulement pendant 3 semaines. En autant que je le sache, la question de l'exportation des animaux vivants a provoqué une baisse pendant 6 semaines. Mais imaginez si vous pouvez soutenir une campagne assez longuement, on peut provoquer des changements importants de consommation. On voulait aussi savoir des consommateurs ce qu'eux voulaient savoir. Et en fait, ils veulent de l'information. Ce n'est pas seulement l'information, aussi la façon de livrer l'information. Ils ne veulent pas qu'on détruise les groupes des droits animaux. Ça n'aide pas, là. Ils ne veulent pas qu'on tente de faire cela. La plupart d'entre eux sont prêts à recevoir de l'information de l'industrie. Il faut dire aux gens qu'est-ce qu'on va faire. Il faut leur montrer que l'on respecte les codes et il faut être prêt à réagir quand ils montent une campagne, etc. La chose la plus importante pour nous, ça a été au sujet du détail. Tout ça a été fait en 2009, donc c'était vraiment visible, le bien-être des les détaillants les plus importants ont été sensibilisés à la chose. Et nous avons pu répondre et être proactifs sur beaucoup de questions. Mais ce que les détaillants voulaient de nous, c'est qu'on soit proactifs et qu'on montre du leadership sur les questions de bien-être animal et de prendre des décisions difficiles. Bon, il y a l'aspect politique qui est important ici. Les verts et les indépendants ont la balance du pouvoir en Australie en ce moment. Alors, les politiques des verts et éliminées progressivement les pratiques de production intensive faut faire face. La politique tend... Bon, c'est un des pays les plus organisés puisque les gens vivent sur la côte est dans nos grandes villes, hein? Melbourne, etc. Et la politique en Australie met donc l'accent sur ce qui se passe dans les grandes villes. Et pour ce qui est de bien-être animal, ce sont des réactions instinctives qui ont des conséquences inattendues. Et c'est important de le savoir. Et en juin 2010, malgré nos discussions avec le gouvernement des États-Unis au sujet de l'abandon des stalles de truies, le gouvernement des États-Unis a décidé qu'ils allaient les abandonner eux-mêmes. Bon, bravo pour eux. Bon, heureusement, ils sont petits. Il n'y a que quelques producteurs là-bas. Mais ce qui est de plus remarquable chez les États-Unis, c'est que même si eux vont bannir l'utilisation des stalles de gestation, par la réglementation, nous disons que ça doit être un mouvement volontaire. On a persuadé les gouvernements. On a dit, ne faites pas de règlement ici. On va le faire à cette industrie. Nous savons ce qui est bon pour l'industrie. Mais on a juste besoin d'un peu d'appui de vous et des détaillants pour y arriver. Donc, ce qui va arriver, c'est que les produits approuvés vont passer en Tasmanie et les producteurs là-bas devront abandonner et ça ne réglera pas les questions de bien-être des animaux qu'ils veulent régler. Donc, c'est une politique à courte vue. Donc, il y a une pression pour le changement en Australie. Nos plus grands producteurs de porc, les 30% produisent plus que 50% de la population. Et les plus grands s'en vont déjà vers les stabulations libres. Et ils suivent l'échéancier pour y arriver en 2014. Le message des détaillants et des groupes de consommateurs, par exemple Coles, qui mène la charge, et ça traite le porc frais et ensuite le porc transformé. Mais ça ne nous dérange pas trop parce que leurs produits sont importés. Bon, l'interdiction des salatries en Tasmanie, bon, on le sait. Le code modèle pour les porcins de Nouvelle-Zélande aussi interdit les stalles de 2015. La révision des normes et lignes directrices chez nous le prévoit pour 2015. Les gouvernements étatiques et fédéraux sont conscients par rapport au bien-être animal. Le lobby du bien-être a une incidence importante. Et en tant qu'industrie, nous préférons être proactifs plutôt que réactifs. Nous voulons fixer notre programme nous-mêmes plutôt que de se faire tasser et dicter. Et nous voulons pouvoir continuer à opérer. Le Conseil a décidé de faire un plan pour façonner notre propre avenir. Et nous avons donc lancé un processus de consultation à l'industrie pour voir quelle est notre position par rapport au stade de gestation. Aussi, la question de l'étiquetage et de la main-d'œuvre dans les pays exportateurs vers nous. Bon, puisqu'il faut que les stades disparaissent de toute façon, qu'est-ce que ça va arriver? Mais ça va améliorer les relations avec le gouvernement et la communauté. Ça permet aux produits australiens de se démarquer. Ça crée des normes cohérentes et logiques pour le retrait des stades, d'optimiser les appuis du gouvernement et d'obtenir l'appui du lobby du bien-être pour nos produits australiens. On peut collaborer. Alors, il faut choisir les sujets de collaboration. Voici l'échéancier du processus de consultation qui a eu lieu en 2010, de juin à novembre. Au cours de cette consultation, il y a eu des enjeux assez importants pour les producteurs. On était vraiment préoccupés des coûts supplémentaires à supporter, capital et main-d'œuvre, et que cela les désavantagerait par rapport aux produits d'importation. Il y avait de plus en plus de porcs peu dispendieux importés en Australie, puisque cette viande n'a pas besoin de rencontrer les mêmes normes qu'eux. L'étiquetage aussi, touchant la viande, la vente transformée, n'est pas très clair. Et il y a aussi un manque de précision au sujet du pays d'origine. Donc, je vais vous montrer ce à quoi ressemble la consommation de porc le bleu, c'est les exportations. Le gros, c'est les importations qui augmentent, comme vous voyez. Et le vert, c'est la consommation totale apparente. Bon, pour ce qui est du per capita, consommation de porc frais est de 0,8 kg. Et Porc Australie met sa stratégie sur la consommation de porc frais. Il y a quelques années, ils ont pris une décision en disant qu'il ne faudrait pas trop s'inquiéter du porc importé. Bon, c'était une mauvaise décision, semble-t-il. Mais on peut-être rattraper le terrain perdu. Bon, les transformations, c'est 15,2 kg. On aime bien le bacon, le jambon et autres produits transformés. Mais 10,2 de cela, c'est des produits importés. Alors, quand on dit en Australie, chaque fois que tu ouvres ton frigidaire et que tu sors du bacon, 70 % vient de l'étranger. Hey, vous envoyez de l'argent à l'étranger. Vous êtes tellement préoccupé du bien-être des animaux, alors cherchez la bonne étiquette. Quelle étiquette? Et ça a été un problème important dans le pays chez nous. Yep. Mon industrie est si petite qu'on ne peut pas concurrer sur le prix des gens comme vous, ou les États-Unis ou le Brésil. On est trop petit. Donc, il nous a fallu définir une stratégie touchant d'autres choses. J'ai fait un estimé de coût pour passer à la stabulation grébée. On estimait que selon la grosseur de la population, entre 700 et 1500 $ par stall, investissement immobilier assez important, 15 millions de $ au total. Notre gouvernement a investi 100 millions de dollars dans l'industrie de la viande rouge à cause des exportations vives. Comment est-ce qu'on va récompenser une industrie proactive? Ce sera intéressant à voir ce que les policiers vont faire. On commence les négos. On a donc pris cette décision à nos délégués lors de notre Assemblée générale annuelle qui représente l'industrie du pain. Donc, abandon volontaire des stalles de gestation, reconnaître la compensation pour nous aider à faire le changement. Et c'est un programme volontaire. Nous avons besoin que les consommateurs, d'État et gouvernement nous appuient pour réaliser ce changement, on l'a dit très clairement. On a eu un appui massif, 80 % des délégués sont pour, et en autant que je le sache, c'est une première mondiale pour un groupe industriel de la sorte. Donc, on est passé à l'étape de dessiner notre avenir, fixons nos objectifs. Alors, on a un plan de mise en œuvre qui appuie la recherche d'une définition de sans stade de décision. Il faut obtenir des compromis, je vais vous en parler. Il faut assurer la capacité de réaliser le changement d'ici 2017 et la différenciation du port frais et de produits importés doit se faire. Voici les éléments au tableau qui touchent l'appui à la définition aide structurelle, main d'œuvre, normes, lignes directrices et au marketing détaillant. Bon, je pourrais vous en parler longuement. Vous pouvez aller sur le site Internet de CMSAE et vous allez voir mon exposé là, avec des détails, des calendriers, des échanges, etc. Je vous ai parlé de cause, le gros détaillant. Ils n'accepteront plus notre produit, le produit qui est produit à partir de salles, de stalles de gestation. On avait discuté avec eux de ce sujet pendant longtemps. On leur a dit, voici ce qu'on prévoit faire. C'était simplement une consultation. Eux ont décidé qu'ils voulaient aller plus vite pour leur propre raison. Donc, on a monté une campagne en disant, vous devez faire la même chose avec votre produit transformé. Ah, sinon, c'est hypocrite. Ah, mais les consommateurs sont préoccupés de porc frais. Nous, on a dit non, toutes les sortes de porc. Donc, on a commencé une campagne pour différencier, démarquer le porc australien, un petit secteur, 1 million $ par année. Ça, c'est la charcuterie, là, le produit transformé. Et donc, ces argents-là s'en vont aux États-Unis, chez moi, au Danemark, au Brésil, ailleurs. La campagne australienne tourne autour du fait qu'on peut différencier le porc australien des produits importés. On engage les gens de l'industrie de transformation à l'utiliser avec vérification, avec la marque Made in Australie. Bon, fait en Australie, les gens s'imaginent que ça veut dire que c'est un porc australien, mais non, ça veut dire que c'est transformé en Australie. Il faut regarder sur les étiquettes, et je pense que les consommateurs prennent part dans le temps, puis c'est pas toujours indiqué, mais ce que nous avons fait, c'est on a la marque porc australien. Cherchez cette marque-là. Ça va vous dire que vous consommez un cochon élevé chez nous. Bon.
And l'autre partie de cette stratégie, c'est sur l'intégrité de notre porc australien. Je m'excuse, il y avait une très bonne diapositive qui expliquait le marché du détail. Bon, c'est parti. Je dois vous expliquer le marché au détail. Pourquoi est-il si important? 70 % du marché est dominé par deux chemins, Always et Coles. C'est eux qui dictent la politique. Presque 80 % du marché de la transformation est détenu par deux transformateurs à 80 % du marché. Ils ont un pouvoir énorme. Donc, nous travaillons d'arrache-pied avec nos détaillants pour voir que nous allons dans la bonne voie, dans la bonne direction, parce qu'ils savent ce que nos consommateurs veulent. Pour aller dans une clustration, sans clustration, il faudra... il y avait 30 soumissions pour CAC. C'est très compétitif. Ça va dans tous les secteurs. Ça peut être il n'y en avait que 4. Nous étions les seuls qui avaient à gagner. Nous avons l'industrie, le gouvernement, les universités qui contribuent. Nous avons un de nos grands détaillants qui est un participant à ce groupe et nous avons 9 participants internationaux. Ce que nous voulons faire, c'est produire un porc de haute qualité avec le même coût financier, mais sans les autres coûts pour le bien-être du consommateur. L'ultime produit en salubrité, le CIC, a 7 ans pour faire cela et ça va le faire pour la foire mondiale. On cherche une gestion sans claustration des truies et des porcelettes. On veut réduire l'utilisation des antibiotiques. On regarde les systèmes de sevrage progressif, les systèmes de logement et de gestion, et aussi de nouveaux systèmes de mise en bas sans claustration. Lorsque j'ai quitté l'Australie, Voiceless allait monter une autre campagne. Il le faisait en collaboration avec Animals Australia. Ils veulent qu'on aille encore plus vite de se retirer de ces stalles de truies. Lorsque je vais rentrer chez moi, une des premières rencontres, j'ai déjà eu une rencontre avec la SPCA. On va rencontrer Voiceless autour de ce qu'ils font, de ce qu'ils veulent faire. Et nous allons parler à ce groupe d'activistes pour dire que nous devrions travailler ensemble. Si vous voulez qu'on bouge plus rapidement, nous avons besoin de vous à côté de nous pour rencontrer le ministre. Nous voulons que vous soyez le porte-parole de la consommation du produit australien pour que nous puissions avoir l'assistance nécessaire pour refaire nos magasins, que tous les gouvernements d'État participent à la planification environnementale et pour les permis pour refaire les fermes. On peut collaborer avec ces groupes. On doit choisir nos batailles. Je crois que nous sommes en meilleure posture que nous l'étions avec une pensée progressive. Nous avons une meilleure compréhension de ce que nous avons avec ces groupes d'activistes et de bien-être et ce qui est différent. Donc, il sera intéressant de voir ce qui va se passer au cours des 3 prochains mois. Et au cours des 2 prochaines années aussi, pour voir quel genre d'effet nous allons créer. Y a-t-il des questions? Et oui, c'est une bête de chez nous qui se promène, qui se trimballe dans la nature. Et si vous voulez davantage de renseignements, ce sera à la fin de ma présentation, des diapos. Ron Mayner, je ne comprends pas votre préoccupation au sujet des exportations sur pied. Je ne sais pas, je pensais que c'était un très bas niveau. Je ne vois pas le problème. Je ne comprends pas la controverse. J'aurais dû mettre ça en contexte pour vous. Est-ce que vous connaissez la question de la viande rouge des exportations sur pied? Il y a beaucoup d'exportations du bétail vivant et qui va vers l'Indonésie de chez nous. Il y a un groupe qui aime aller dans ces marchés d'exportation, dans ces établissements. Ils prennent des photos. Ils ont travaillé. Le ABC en Australie est très crédible. Ils ont travaillé sur l'exposition du mauvais traitement des animaux. Vous pouvez regarder ça sur YouTube. J'ai vu, c'était horrible ce qu'ils affichent, mais ils prennent toujours les pires histoires. Il y a une enquête au Sénat. On pose des questions sur la question de l'IBC, pourquoi ils n'ont pas pris leur propre vidéo. On voit 6 sur 11 établissements de transformation. Ce n'est pas mon industrie, c'est celle du bétail. Mais ça n'a jamais montré les autres où les bonnes choses se faisaient. Est-ce qu'il y a des améliorations apportées? Bien sûr. Mais il y a des conséquences non intentionnées. Je crois que c'était une réaction très vive du gouvernement. Le ministre a interdit les exportations et nous avons des relations intenses avec l'Indonésie. Ce que vous devez savoir, 280 millions, c'est l'État musulman le plus grand en dehors du Moyen-Orient. La culture est différente, les pratiques, une différente façon d'acheter de la viande. On avait beaucoup investi en recherche et développement. Je pense qu'on aurait pu mieux s'en tirer, mais c'est à eux de trouver des solutions. Les conséquences non intentionnées, depuis qu'ils ont arrêté ces exportations, le bétail dans le nord restait sur place. Ils étaient dans le territoire et ce bétail était prêt à être exporté, à transporter, exporté. Il n'avait nulle part où aller. Ce bétail servait uniquement à ce marché d'Indonésie. Et il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce qu'on devrait les transporter vers le sud? C'est toute une longue route et ce n'est pas une question de bien-être. Et il y a aussi les marchés du sud. L'industrie du transport a arrêté de fonctionner. Il fallait mettre à pied des employés. C'était des conséquences non attendues. Et il y a eu un impact énorme. D'après mon industrie, le plus grand impact, c'était le fait que les groupes de bien-être et de droits des animaux avaient réussi leur campagne. Je crois qu'ils ont réussi à obtenir 40 000 signatures sur leur pétition des Australiens qui n'acceptaient plus cette pratique. Ça a stimulé un bon débat, je dois le dire. Mais pour l'industrie du bétail et la question au niveau public, et la façon dont je vois cela, nous avons vu des campagnes depuis un bon bout de temps. Toute industrie importante en Australie a vu ce genre de campagne. Nous pensons à l'avenir, nous voulons être proactifs, nous voulons faire preuve de leadership. Mais ils ont changé la dynamique. Ils ont donné à ces groupes tout un succès, toute une tribune. Ils savent que le gouvernement peut répondre d'emblée. Donc, j'espère que ça vous a fourni une petite explication. Sheila McDonald, avec la Fédération des sociétés d'assistance aux animaux du Canada. Et vous allez vers quel système lorsque vous allez à l'alimentation électronique? Alors, d'ici à 2017, il y a certains producteurs qui sont presque arrivés à faire la transition. C'est toute une bataille. Il y a des questions d'agression. Il y a des manques de productivité à moyen terme. Les agriculteurs payent un coût énorme. Et comme l'industrie porcine Canada qui sort d'une période très difficile, vous n'avez pas les ressources financières pour faire l'investissement. Si vous voulez qu'une industrie change, le gouvernement et les détaillants doivent être derrière vous à chaque étape. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est de trouver le pire résultat en matière de bien-être. Il faut que ce soit une transition bien gérée et vous devez voir est-ce que vos producteurs puissent se permettre de faire ces transitions. Question inaudible. Si j'étais dans un système sans claustration, oui, mais alors, 47 % de la production est à l'intérieur, logement en groupe. Ces systèmes ont été construits et si vous changez tout cela, il y aura une catastrophe environnementale. Il faut être réaliste au sujet de ces changements. Il faut trouver un équilibre. Et je disais qu'il n'y a pas de solution facile. Et ce que j'aimerais vraiment voir de ces groupes militants, qu'ils nous disent « Vous avez fait un travail merveilleux. Nous sommes fiers que vous ayez pris ce leadership et nous voulons vous aider à y arriver. » Parce qu'en fin de compte, nous avons un intérêt commun, le bien-être de nos animaux. Merci.